Alors, cette table ronde a été co-organisée par la chaire d'études méditerranéennes du LabExMed, dont la représentante elle, est Delphine Perrin, ici présente, l'Observatoire des relations euro-méditerranéennes de la Maison méditerranéenne des sciences de l'homme, le Centre franco-allemand de Provence, dont Fabien Ménel est le représentant, mais aussi le Parlement européen, puisque une députée a eu la gentillesse d'être parmi nous, et nous la remercions malgré ses multiples occupations d'élu. J'en profite, puisqu'on parle du Parlement européen, pour rendre un hommage à Simone Veil, qui vient de décéder aujourd'hui. Simone Veil, qui est l'ancienne présidente du Parlement européen, la première présidente élue au suffrage universel, outre qu'elle a été effectivement une des premières femmes françaises à avoir des fonctions importantes, elle a été aussi, comme vous le savez tous, ministre porteur du projet de loi sur la légalisation de l'avortement en 1975, et elle était aussi à la tête de nombreux combats, notamment pour la reconnaissance, la mémoire des personnes qui avaient été victimes de la Shoah. Donc, effectivement, même si je ne le connaissais pas personnellement, c'était une personnalité publique qui forçait l'estime de chacun d'entre nous. Je pense que le Parlement européen organisera effectivement un certain nombre d'initiatives. Alors, la table ronde d'aujourd'hui, comme nous l'avions déjà fait à la Villa Méditerranée, mêle à la fois des acteurs, des associatifs, des élus et des chercheurs. Et nous tenons beaucoup à cette formule. Et nous la poursuivrons dans d'autres lieux et à d'autres dates, parce que je crois que c'est une formule qui permet d'avancer dans le débat et qui permet aussi de casser nos bulles réciproques. On est toujours entre chercheurs, entre politiques, entre associatifs. Et là, c'est une façon aussi de faire circuler la parole et de dialoguer entre nous et aussi de casser nos ornières qui sont souvent nombreuses sur des sujets comme les réfugiés. Alors, pour animer cette table ronde, je présenterai notre invitée qui vient de plus loin. C'est Catherine Graeber, donc, qui est diplômée de Sciences Po Paris, qui est diplômée de l'ENA, qui a d'ailleurs fait son stage à la mairie de Marseille. Presque, on va faire un peu d'humour en train de dire « Oh la pauvre, on a presque envie de dire !» Mais non, je ne dirais pas ça, parce que ça a dû être un stage très agréable à mairie de Marseille, et dans le cadre de l'ENA, et notamment pour ce qui est la mise en place de Marseille, capitale européenne de la culture. Actuellement, elle est chargée de mission au secrétariat pour les projets franco-allemands du Land de Sarre. Hein, c'est-à-dire qu'elle est chargée de mission au sein de la chancellerie, qui est le gouvernement fédéré du Land de Sarre. À mes côtés, que nous connaissons bien, puisqu'elle est notre députée européenne, si je puis dire, même si elle est députée de tous les Européens, Marie-Christine Vergiat, qui est donc députée européenne du Front de Gauche, et également qui siège au sein de... Alors, c'est un groupe qui rassemble différents partis européens, le groupe de la gauche unitaire européenne, et je crois qu'il y a une gauche verte et nordique, je ne sais pas si c'est toujours vrai, ça doit être inventé, mais elle a aussi... Elle a aussi une très longue expérience politique, puisqu'elle a été conseillère technique au cabinet de Martine Aubry. Elle a été longtemps militante du Parti Socialiste, de la Ligue des Droits de l'Homme, de la Grande Fédération donc des œuvres laïques, et aussi, quand elle était étudiante, de l'UNEF. Donc, outre ses fonctions de députée, c'est une élue de terrain, c'est une militante de terrain qui a eu à s'occuper de ces questions de réfugiés et d'immigration dans le cadre de ses différentes fonctions politiques et de ses différents mandats. Autre personne, donc locale, Margot Bonis, qui est représentante de la plateforme d'asile à Marseille. Oui, plus, depuis quelques mois, hein, c'est ça, voilà. Qui a surtout été très longtemps, mais qui est toujours, je pense, membre de la CIMAD, voilà. Donc, où elle a été d'abord bénévole avant d'être au-delà de bénévole, je pense, chargée de mission, ou voilà, donc chargée de mission, et qui donc connaît bien ces questions de l'asile. Aujourd'hui, alors je ne sais pas si c'est toujours vrai, elle est chef de service d'un CADA, centre d'accueil des demandeurs d'asile. Je crois qu'elle a quitté il y a un mois. Voilà. Donc on peut dire c'est une praticienne, je n'aime pas dire ce mot praticien, c'est une actrice locale qui a eu affaire directement à cette question des réfugiés. Autre personne à côté d'elle, Ingrid, ma collègue Ingrid Tucci, donc qui est sociologue, chargée de recherche de première classe au CNRS, au Laboratoire L'Est. Ses domaines de spécialité, c'est bien sûr la question des migrations, du marché du travail, des questions aussi d'ethnicisation. elle a un double cursus, ou plutôt une double expérience universitaire et scientifique, à la fois en Allemagne, à l'université de Berlin, Humboldt, je crois que c'est l'ancienne université d'Allemagne de l'Est, non ? Qui a été reconvertie en université fédérale. Donc, je ne sais pas s'il reste toujours des profs issus de l'Allemagne de l'Est, mais bon, en tout cas, c'était l'université inconnue à l'époque de l'Allemagne de l'Est. Et bien sûr, elle a aussi une expérience, elle a aussi un double cursus, puisqu'elle était aussi inscrite à l'école des hautes études en sciences sociales. Elle a surtout dirigé ce fameux numéro sur la question des réfugiés en Allemagne, avec une question auquel on tentera de répondre, y compris en nuançant, voire même par la négative, existe-t-il un modèle allemand sur la question des réfugiés ? Enfin, le seul homme qui prendra la parole, c'est Pedro Viana, donc spécialiste du droit d'asile. Alors Pedro, il a plusieurs casquettes. Il est ancien assesseur à la Cour nationale du droit d'asile, ancien rédacteur en chef de la revue Migration Société pendant plus de 15 ans. Il a été le maître d'œuvre et le chef d'orchestre de cette revue. Il a été notamment aussi vice-président de l'association Accueil des médecins et des personnels de santé réfugiés en France. Voilà, il est toujours membre. Mais Pedro Viana, c'est un personnage qui, au-delà de ses attributions, c'est un poète reconnu et connu, c'est un auteur de théâtre, et puis c'est aussi un réfugié, puisque Pedro est de nationalité brésilienne, qui a eu la très bonne idée, lorsque le président Allende a été élu au Chili, de se réfugier au Chili. Donc Pedro a quitté la dictature militaire brésilienne pour se rendre au Chili, et manque de peau, il y a eu le coup d'État d'Augusto Pinochet. Pedro s'est retrouvé parmi les personnes qui ont été persécutées, arrêtées et transportées dans ce fameux stade sinistre dans lequel ont été regroupés la plupart des opposants chiliens à la dictature de Pinochet. Et c'est notamment grâce au Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et aussi, je crois, à quelques autres médiations qu'il a été libéré du stade et qu'il s'est réfugié en France. Voilà. Alors, pourquoi ce thème France-Allemagne ? On est à Marseille, c'est vrai qu'on n'a pas trop l'habitude à Marseille, même si nous avons une germano-marseillaise à côté de nous, on a peu l'habitude à Marseille de regarder vers l'Allemagne, on regarderait plutôt vers l'Italie, on regarderait plutôt vers l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, voire même vers l'Espagne, mais très rarement vers l'Allemagne. Il y a quelques partenariats, il y a quelques échanges, mais là, il faut dire que ce n'est pas nous qui avons regardé vers l'Allemagne, mais c'est plus presque l'Allemagne qui s'est imposée à nous, à travers les canaux médiatiques, mais surtout à travers les prises de position et les décisions de sa chancelière, avec cette fameuse phrase prononcée le 31 août 2015 que tu cites, Ingrid Tucci, dans ton article à propos des réfugiés. Nous y arriverons, der schaffen das, c'est-à-dire nous accueillerons des milliers, des centaines de milliers de réfugiés. Nous faisons le pari que nous surmonterons ce défi. Alors, pourquoi partir de cette phrase pour commencer la discussion d'aujourd'hui, je dirais que, d'abord parce qu'elle peut nous surprendre. C'est vrai, il faut être franc, l'image qu'avait l'Allemagne et sa chancelière en France était plutôt une image conservatrice, plutôt une image libérale, ultra-libérale, plutôt une image qui était associée pour beaucoup d'entre nous, et notre députée européenne le dira, à la problématique grecque. C'est-à-dire qu'on avait l'impression que l'Allemagne, c'était presque le pays qui voulait pousser la Grèce hors de l'Europe, ce qui n'était sûrement pas vrai. Et donc là, on voit, au contraire, une chancelière de droite, conservatrice, marquée par ce stigmate un peu grec, prendre une décision d'accueillir, en quelques mois, sur son territoire, plusieurs centaines de milliers de réfugiés, à un moment où la France se contentait d'en accueillir quelques milliers, et à un moment où la France avait un gouvernement de gauche. Donc nous, chercheurs, militants, associatifs, nous avions un gouvernement de gauche qui accueillait péniblement quelques milliers de réfugiés sur son territoire, et nous avions en face une chancelière allemande sur lesquelles on avait dit beaucoup de mal, et pas seulement, je dirais, les partis de gauche, l'extrême droite avait encore plus diabolisé la chancelière allemande, prenait cette décision. Donc quelque part, une Allemagne qui se présenter pour nous, non pas forcément sur un nouveau visage, mais qui a quelque part un peu décontenancé les représentations, les visions que nous pouvions avoir sur elle. Donc, première question que je vais vous poser, à vous tous, je pense que c'est pas une question, on n'est pas dans un quiz, on n'est pas là pour, c'est pas une interrogation, mais vous, à partir de vos différentes positions d'élus, députés européennes, de hauts fonctionnaires allemands, de chercheuses, d'acteurs associatifs, de poètes engagés sur les questions de réfugiés et de rédacteurs en chef d'une revue, quand vous avez entendu cette décision et quand vous l'avez vue mettre en pratique, c'est-à-dire qu'une Allemagne qui, en quelques semaines, accueille plusieurs centaines de milliers de réfugiés, alors que la France prétendait que c'était impossible, selon le fameux paradigme « on ne peut pas accueillir toute la misère du monde sur notre territoire », quelle a été votre réaction, tout simplement, votre attitude, scepticisme, pas scepticisme, est-ce que vous avez été interpellé personnellement, est-ce que vous avez vu l'espoir d'une politique nouvelle? Donc j'ai envie, tout simplement, d'abord, vous demander votre réaction, je dirais, non pas en la reconstruisant, en recréant un nouveau roman, mais comment vous l'avez perçu, surtout que vous étiez quand même directement tous concernés, toutes concernées autour de cette table, autour de la question des réfugiés. Je ne sais pas, Pedro, par exemple.
Ah. Oui. Oui, bonjour à toutes et à tous. Ma réaction, elle a été, je dirais, absolument normale, parce qu'accompagnant la question des réfugiés de l'asile en Europe depuis plus de 40 ans, je savais parfaitement bien que, au début des années 1990, l'Allemagne avait accueilli pratiquement 1 million de réfugiés venant des pays de l'ex-Yougoslavie, qu'ensuite, après, dans le processus qui a suivi l'effondrement de l'Union soviétique, l'Allemagne avait accueilli des millions de Ausländer, des Allemands de l'étranger. Et donc, il y avait une pratique en Allemagne de l'accueil de réfugiés, et il n'y avait que la presse de mauvaise qualité, bien qu'elle soit appelée grande presse, pour parler de situations jamais vues, c'est quelque chose d'extraordinaire, etc. Alors que dire ça relevait de l'ignorance pure et simple. Deuxièmement, je pense qu'il fallait connaître un petit peu l'histoire de l'Allemagne et du processus politique en Allemagne pour être étonné du fait qu'une chancelière qui venait de l'Europe de l'Est, qui était fille de pasteurs protestants et qui avait donc une certaine culture par rapport à la question de l'asile, qui est inscrite dans la constitution allemande. Et enfin, c'est la méconnaissance totale de ce qu'est la pensée qu'on appelle ordo-libéral, l'ordo-libéralisme allemand, qui, à mon avis, est à la base, et c'est la base, le sous-basement idéologique de cette attitude-là. Alors après, on a essayé de dire, oui, bien sûr, l'Allemagne veut de la main-d'œuvre, l'Allemagne veut de la population. Peut-être, il y a il n'y a jamais de cause unique. Les phénomènes sociaux et politiques n'ont pas des causes uniques. Certainement, il y avait aussi des intérêts économiques qui ont joué. Mais je pense qu'au-delà de ces intérêts économiques, il y avait un sous-basement historique, politique et idéologique qui expliquait. Et seulement l'ignorance absolue. Tout à l'heure, on parlait de la question de la France et quelqu'un disait « la France est très auto-centrée ». Et je disais que c'était une vision optimiste. Parce que quand on dit « auto-centré », c'est qu'il y a un centre et quelque chose autour. En France, il n'y a rien autour. C'est la France et c'est une sorte d'autisme politique qui conduit à l'ignorance absolue de ce qui se passe autour.
Alors Margot, vous qui êtes militante associative marseillaise depuis de très nombreuses années et qui connaissez bien les questions de réfugiés à travers la CIMAD, comment vous avez réagi par rapport à cela? Est-ce que ça vous a semblé quelque chose de complètement irréaliste ou...
Moi, je replace dans mon contexte et je replace ça à l'été 2015. À l'époque, à l'été 2015, j'étais coordinatrice de la plateforme Asile de Marseille. Et on vit une période très troublée et qui, à la fois sur le moment, nous dépasse complètement sur le terrain et qui nous pose énormément de questions par rapport à ce qu'on entend et ce qu'on voit autour de nous, dans les médias, dans les réactions des gens, dans ce fameux discours de l'Allemagne. Et on se pose la question, mais qu'est-ce qu'il est en train de se passer? Comment ça se fait qu'on soit à ce point au pied du mur et que les autorités auxquelles on essaye de parler en France soient si sourdes à ce qu'on puisse, ce qu'on peut leur faire remonter du terrain. Sur le moment, je suis assez sceptique quand j'entends le discours de l'Allemagne. Je n'ai pas les connaissances de recevoir l'histoire de la politique d'accueil allemande, mais je suis assez sceptique parce que, pour moi, je vois une posture européenne qui n'est pas une posture, pour moi, d'accueil, qui est une posture hostile vis-à-vis des réfugiés. Et je me demande qu'est-ce qui se passe réellement, en fait. Parce qu'on n'est pas du tout, à ce moment-là, en août 2015, dans une préoccupation, en tout cas au niveau local et national, d'organiser un accueil cohérent et intelligent qui ait un sens. Donc je dirais que je suis assez sceptique à ce moment-là.
Peut-être avant de laisser la parole à nos deux collègues qui travaillent plus spécifiquement sur l'Allemagne, demander à la députée européenne, donc Marie-Christine Berger, elle qui appartient à un groupe beaucoup critiqué notamment Mme Merkel, pas seulement Mme Merkel pour elle-même, mais la politique allemande concernant la Grèce, la dureté un peu allemande concernant la Grèce, comment elle, en tant que députée européenne, concrètement, ou même en tant qu'individu, citoyen, elle réagit quand elle voit une chancelière ouvrir son pays à plusieurs centaines de milliers de réfugiés, alors que son propre pays, la France, n'a pas fait grand-chose. Donc, même si ma question est un peu orientée, je ne sais pas quel était votre sentiment à ce moment-là, Marie-Christine.
Comme vous l'avez dit à juste titre, je travaille sur ces questions depuis de très nombreuses années, y compris avant d'être députée européenne. Donc j'aime bien qu'on replace cette question, et je suis d'accord avec tout ce que vous venez de dire, dans un contexte beaucoup plus large. Oui, il s'est passé quelque chose en 2015, et ma collègue Angélique Elivieski, qui vient de Grèce, va parler de ce qui s'est passé en Grèce. Elle pourra vous apporter son témoignage si vous le souhaitez. La question n'est pas nouvelle, y compris dans l'Union européenne. D'abord, pour ce qui concerne l'Allemagne, cela fait des années maintenant que l'Allemagne est le pays du monde, le deuxième pays après les États-Unis, en termes d'accueil des migrants. Ça ne s'est pas passé d'un seul coup en 2015, il y a des années. Alors ça s'explique pour des raisons démographiques, en partie. Mais peut-être qu'il faut se rappeler qu'en avril 2015, il y a eu un conseil extraordinaire de l'Union européenne, des chefs d'État et de gouvernement, qui était le premier conseil qui s'est saisi de ces questions, que les associations, les ONG ont appelé le Conseil de la honte, quelques semaines après un des principaux drames de Lampedusa, quand un bateau a coulé, faisant plus de 700 morts d'un seul coup. Et que les morts en Méditerranée, ça fait des années et des années qu'ils s'accumulent. Comme ils s'accumulent dans le désert, on commence à parler de ceux qui s'accumulent dans le désert. Donc je crois qu'il faut remettre cette question dans son cadre, y compris parce que les politiques européennes d'aujourd'hui s'appuient sur les décisions du Conseil de l'Union européenne d'avril 2015, comme s'il ne s'était rien passé derrière. Donc, moi, je ne réagis pas à la française contre l'allemande. Ça ne m'intéresse pas comme façon de voir les choses. Je regarde comment se sont comportés les chefs d'État et de gouvernement. Et quels que soient les reproches que je puisse faire à Mme Merkel en tant que chef du gouvernement allemand, je constate que c'est la seule chef de gouvernement qui a été à la hauteur de la réponse de ce qui se passait sur le territoire européen. L'Allemagne, à elle seule, a accueilli 1 million de ressortissants de pays tiers, de demandeurs d'asile sur son territoire. Et quand on regarde le total, parce que j'en cherchais le chiffre en détail, le nombre de demandes d'asile déposées en Allemagne sur 2015-2016, parce qu'il faut faut regarder cette période-là. Je pense que les chiffres vont redescendre rapidement compte tenu de la situation. Et plus d'un million de demandeurs d'asile, de demandes d'asile ont été déposées en Allemagne. Plus d'un million cent. Et oui, il y a de quoi avoir honte d'être français dans ces cas-là. Peu importe la couleur politique du gouvernement, à la limite, je m'en fous. Mais quand j'ai vu M. Valls, alors Premier ministre, se rendre à Munich pour critiquer le gouvernement allemand en la matière, c'est contraire à tous les us et coutumes en matière diplomatique, qu'un chef de gouvernement aille sur le territoire d'un autre pays pour le critiquer, et en plus le chef du gouvernement d'un pays qui se dit la patrie des droits de l'homme, et qui va donner des leçons en termes d'accueil d'un pays qui se dit aussi terre d'asile, ce qui est très contestable compte tenu de son histoire, qui va donner des leçons. Donc j'ai plus de critiques à faire à l'égard de mon gouvernement, et je redis, Mme Merkel est la seule chef de gouvernement dans les chefs de gouvernement de l'Union européenne à avoir proposé la réponse qui était à la hauteur des soi-disant valeurs de l'Union européenne. Et que ce qui a été fait au niveau européen par la suite, notamment avec le mécanisme de relocalisation, n'est pas à la hauteur de ce qui aurait dû être fait. Parce que je redis, le mécanisme de relocalisation, qui a été le mécanisme mis en place pour obliger les États membres de l'Union européenne à créer de la solidarité en la matière, ne portait que sur 160 000 personnes, que grâce, guillemets, à l'accord UE-Turquie, on en a enlevé 50 000 personnes dans le cadre de l'accord UE-Turquie, et qu'aujourd'hui, on en est à 18 000 personnes relocalisées dans l'ensemble de l'Union européenne, alors que le dispositif était prévu pour 2 ans et devrait s'achever au mois de novembre prochain. Donc j'aime mieux le poser en termes européens, global. Et voir les responsabilités, puisque quand on est dans le franco-allemand, voir les responsabilités à pointer sur la France, la France qui n'a quasiment pas eu à accueillir de demandeurs d'asile supplémentaires durant cette période. Parce que je pense qu'il faut aussi le dire et le répéter, le nombre est passé de 70 000 à 80 000, grosso modo, ce qui n'est à rien à côté de ce qui s'est passé, y compris en Hongrie, j'ai aucun atome crochu avec M. Orban, mais il y a 175 000 demandeurs d'asile qui sont arrivés sur le territoire hongrois, alors qu'en France, il n'y en a même pas eu 10 000.
Alors, Madame la députée, vous avez peut-être raison de ne pas tomber dans l'auto-martyrologie française, mais maintenant, interrogez un peu les spécialistes de l'Allemagne, une haut fonctionnaire et une chercheuse qui a beaucoup travaillé sur l'Allemagne. Donc, Catherine Graeber, c'est vrai que on ne peut pas évacuer cette représentation que nous avons en France de l'Allemagne un peu comme modèle, entre guillemets, avec des grosses guillemets, modèle économique, modèle social, même modèle sportif. Et est-ce qu'aujourd'hui, on peut parler, même si il faut le dater historiquement, de modèle en matière de politique d'immigration et d'accueil des réfugiés? Dans quelle mesure c'est un modèle qui se dessine, qui se confirme? Est-ce que c'est vraiment un modèle? Voilà. Est-ce que pourriez, en tant qu'haut fonctionnaire exerçant des fonctions dans un État fédéral, dans un État fédéré, pardon, est-ce que vous pourriez donner des éléments de réponse sur ça?
J'essaierai de faire mon mieux pour répondre un peu à cette question. C'est vrai que la décision de la chancelière fin août d'accueillir ces réfugiés qui attendaient quasiment à la frontière sur le territoire allemand était peut-être un tout petit peu précipitée. Elle l'a surprise avec cette décision un peu plus d'un, mais il s'agissait notamment plus des mesures d'accueil il fallait que ces mesures aillent de pair avec cette décision. En fait, en ce qui concerne une politique migratoire allemande cohérente, j'irai pas aussi loin, pour être franche, en fait, parce que la politique migratoire allemande en matière d'asile et accueil plus généralement a souvent été marquée, en fait, par des mesures genre action-réaction. Donc, confrontée à une situation peut-être quelque peu extrême, on a essayé d'y remédier.
Mais est-ce que ça aboutit à une politique cohérente? Non, je pense pas. Pas à ce stade. Donc, il y a toujours... Non. Non, je n'irai pas aussi loin de parler d'un modèle, parce que, je crois que les problèmes, et c'est par là que je reviens aussi un tout petit peu à ma mission particulière que j'ai exercée au gouvernement sarrois, les problèmes ou les défis auxquels les pays accueillants des gens, peu importe si c'est un accueil d'asile ou un accueil de migration de travail, les problèmes auxquels sont confrontés ces pays sont à peu près les mêmes, un peu partout. Donc il faut trouver des mesures et des politiques d'accueil qui vont de pair avec l'ampleur de la tâche et qui sachent répondre en fait à ces défis. Et là, on en est aussi loin en France qu'en Allemagne d'avoir trouvé la solution idéale, je pense. Donc peut-être... Et surtout, en fait... Et c'est là que je reviens un peu à ma mission particulière, parce que vous avez pu vous demander peut-être pourquoi témoigner d'une mission franco-allemande, justement, dans ce domaine, quoi apporte un travail franco-allemand dans le domaine d'intégration. Et voilà, c'est là que les défis sont un peu partout les mêmes, et qu'on peut très bien apprendre l'un de l'autre et s'inspirer l'un de l'autre des solutions qui ont marché et qui n'ont pas marché, et justement, à partir de cet échange de bonnes pratiques, aboutir à de nouvelles solutions. C'était dans cet esprit-là qu'on s'était penché sur la question. Mais voilà, je passe peut-être la parole.
Alors, peut-être je vais préciser la question pour Ingrid aussi. Vous avez effectivement dirigé ce numéro en vous interrogeant sur cette notion de modèle allemand de manière critique, que vous ne confirmez pas qu'il y a le modèle, mais vous montrez qu'en fait, c'est très compliqué, qu'il y a des mouvements contradictoires aujourd'hui dans la société allemande par rapport à l'accueil des réfugiés en général et en particulier des réfugiés syriens. Est-ce que vous pourriez nous parler de ces mouvements contradictoires, de ces tendances contradictoires qui font qu'il est difficile de parler aujourd'hui de modèle allemand en matière de réfugiés ou d'immigration même ?
Oui, donc bonjour à tous. Alors, c'est vrai que là, on attaque avec des questions assez complexes, je dois dire, quand on commence à parler de modèle allemand, de modèle migratoire allemand. Je voudrais juste un petit instant revenir à la réaction à chaud que j'ai eue, et peut-être que là, je suis trop optimiste par rapport aux personnes qui sont à cette table. Mais j'ai quand même eu un espoir, en fait, de réaction des autres pays européens, comme s'il y avait un déclic, voilà, quelque chose qui catalyse l'action et qui va se transformer en action politique. Mais bon, après, ça a vite... cet espoir s'est vite dissipé. Dans tous les cas, j'ai trouvé que c'était un moment important quand même pour les personnes qu'il ne faut pas oublier, qui fuient la guerre, la persécution, peu importe les causes, mais qui sont dans un moment de fuite. Donc ça, c'était ma réaction à chaud. Ensuite, concernant le modèle allemand, c'est vrai qu'il faut... Il faut distinguer un petit peu... il faut avoir une perspective historique, comme ce qui a été dit tout à l'heure, puisque finalement, si on regarde un peu l'Allemagne, c'est une société de migration depuis longtemps, mais qui ne s'assume pas, ou qui a commencé à s'assumer seulement à partir des années 2000, où vraiment, là, il y a eu une politique qui a été mise en place où on essaie de considérer la migration comme faisant partie de la société allemande. Mais ça, c'est un moment historique, qui sur le long, depuis quelques années, qui demande aussi beaucoup de négociations et qui amène dans ce moment, il y a beaucoup d'ambivalence, en fait. Beaucoup d'ambivalence entre des individus ou des personnes dans la société allemande qui sont contre l'ouverture, puisqu'on l'a vu avec les partis d'extrême droite qui ont monté, les mouvements populistes comme Pegida, etc., qui ont pris de l'ampleur. Maintenant, ils sont revenus, on va dire, à un niveau plus bas. Et puis d'un côté, un mouvement citoyen très fort, qui lui aussi est plein d'ambivalence, parce que parmi ces citoyens qui aident et qui viennent en aide aux migrants, il y a aussi une réticence vis-à-vis des migrants en particulier, parce qu'ils viennent de pays l'on considère comme des pays musulmans, donc ce sont des personnes en majorité musulmanes qui arrivent en Allemagne. Donc les ambivalences, le clivage central au sein de la société allemande, qui est le clivage entre ouverture et une espèce de crispation, une peur de l'autre, se retrouve aussi bien entre l'extrême droite et le reste que parmi les gens, les, des citoyens du milieu. Voilà. Donc, donc parler de modèle, c'est assez compliqué, parce qu'il faut vraiment aller voir vraiment comment ce modèle, dans la pratique, dans les opinions des gens, comment il s'exprime, en fait. Ensuite, moi, je pense qu'il faut quand même... on ne peut pas parler de l'Allemagne non plus. Deux derniers points par rapport à un modèle. Parce que je pense que comme tous les pays, ou la plupart de pays européens, en tout cas, enfin, je parlerai là de la France et de l'Allemagne en particulier, il y a un utilitarisme migratoire. Donc ça, c'est quelque chose qui est commun à ce beau pays.
C'est-à-dire
qu'on laisse rentrer les personnes qu'on estime qu'elles vont servir à la société dans laquelle elles vont vivre. L'Allemagne, on le sait, est dans une situation économique favorable. Elle est dans une situation démographique moins favorable. Elle a tout intérêt à laisser rentrer des gens. Et ça, c'est quelque chose qu'elle partage avec des pays comme la France. Là où on peut dire quand même que... je ne parlerai pas de modèle, mais ce que la France peut apprendre de l'Allemagne, si ce n'est dans l'accueil, déjà mettre en place une politique d'accueil qui vraiment mérite ce nom, mais c'est surtout... le dispositif d'insertion des personnes. Donc malgré tous les problèmes qu'on peut observer en Allemagne, il y a quand même un dispositif bien réfléchi d'insertion des gens dans la vie, et en particulier de l'insertion professionnelle, même si bien sûr on ne sait pas encore quels vont être les effets. Mais ça, je crois que c'est important quand même de regarder aussi à ce niveau-là. Voilà. C'est pas seulement la politique migratoire, mais la politique, ce qu'on appelle en Allemagne la politique d'intégration, enfin voilà, un dispositif concret et qui vraiment est décliné avec plein de mesures différentes dont on ne sait pas encore les effets, mais pour quelques mesures, on connaît déjà les effets.
Je vais poser une question. On va revenir sur l'Allemagne, sur ces dispositifs d'intégration qu'on va comparer avec des réfugiés, j'entends bien, qu'on va comparer avec ceux de la France. Mais la question que je pose, elle est très générale, je sais, mais à partir de vos points de vue, juge à la Cour d'asile, militante associative à Marseille, député, qu'est-ce qui bloque en France ? Voilà un pays qui est signataire de tous les textes sur les réfugiés, qui est un pays démocratique, qui est un pays qui est... Tout le monde fait la course à celui qui soit le plus grand défenseur des droits de l'homme. La France se présente toujours comme la missionnaire des droits de l'homme dans le monde. On voit des pays comme le Liban, qui ont sorti d'une guerre civile pénible, qui accueille 1,5 million, voire 2 millions de réfugiés, et qui, dans des conditions difficiles, mais qui les accueille quand même. Un pays comme la Turquie, qui accueille des réfugiés, et on voit la France qui se présente comme l'héroïne des droits de l'homme dans le monde, et qu'est-ce qui bloque ? C'est-à-dire, est-ce que c'est une politique sécuritaire du ministère de l'Intérieur ? Est-ce que c'est une politique gouvernementale ? À l'échelon local, le témoignage, est-ce que les préfectures bloquent ? On voit des gens, on sait... Nous sommes un certain nombre à connaître énormément de gens qui remplissent les conditions pour être réfugiés. Il se trouve que nous avons travaillé avec des gens qui sont aujourd'hui réfugiés. Ils sont à la fois, pour ce qui est des Syriens, victimes des bombardements du régime de Assad et victimes des groupes djihadistes. Et on les connaît. Donc on sait très bien qu'ils ne mentent pas. On les a connus avant. On les voit arriver à Marseille et à Paris. Et on sait très bien qu'ils fuient la persécution. Qu'est-ce qui bloque concrètement dans ce pays démocratique signataire de tous les textes de référence sur le droit des réfugiés, pour qu'on en accueille aussi peu? Donc, on commence par le juge, si je puis dire.
Je pense que, encore une fois, je vais faire appel à l'histoire, l'accueil des réfugiés, ou l'accueil des étrangers en général, est, on ne peut pas l'oublier, le résultat d'un rapport de force au sein de la société. Il y a deux types d'accueil de réfugiés, de manière très générale. Il y a lorsqu'un pays frontalier est confronté à des situations qui engendrent des réfugiés, les réfugiés traversent la frontière. On a vu depuis les années 60 jusqu'aujourd'hui en Afrique, c'est en l'espace de quelques jours des centaines de milliers, voire de millions de personnes qui traversent une frontière. Et le gouvernement de l'État qui est confronté à cette situation, il ne peut que prendre acte de la situation, et comme ce sont des pays pauvres, faire appel au commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Ou alors l'autre solution, mais qui est difficile à mettre en place, c'est de mettre des mitraillettes à la frontière et de tuer tout le monde avant qu'ils ne traversent la frontière. La France a été confrontée à une situation de ce genre, à la fin de la guerre civile espagnole. Les Espagnols ont traversé la frontière des Pyrénées et la France a été confrontée à la présence de ces personnes. Nous savons historiquement quelle a été la réponse des camps où on les a parqués, parce que le rapport de force à l'époque était ce qu'il était, et on a vu ce que ça a donné quelques mois après. L'Allemagne a été confrontée, dans le cas de l'ex-Yougoslavie, à une situation de ce genre. Les gens ont traversé la frontière et le gouvernement allemand a été contraint de dire « que faisons-nous maintenant ?». Mais un autre aspect, c'est lorsque ce sont des réfugiés lointains et que le pays en question décide d'accueillir. La France l'a fait. Elle l'a fait en 1973 pour les réfugiés qui venaient du Chili. J'en suis très reconnaissant aux forces françaises qui ont lutté pour cet accueil, mais ça a été un rapport de force dans la société. La même chose, et là je dirais, ça a été un mouvement social qui a poussé l'État à cet accueil, vis-à-vis duquel il était réticent. Un an et demi après, à la fin de la guerre du Vietnam, c'est l'État français qui va solliciter les mouvements associatifs pour accueillir les réfugiés d'Asie du Sud-Est à raison de 1000 personnes par mois, c'est-à-dire du jamais vu depuis la Seconde Guerre mondiale. Et c'est l'État qui a pris cette décision parce qu'il y avait là encore un rapport politico-social qui poussait à cet accueil. Et malheureusement, en 1983, nous avons vécu en France un tournant qui n'est pas seulement économique, qui est, je dirais pour parler simplement, le renoncement au programme sur la base duquel le gouvernement avait été élu, le président de la République avait été élu en 1981, et ce tournant de 1983 porte aussi sur la question de l'immigration en général et de l'accueil des réfugiés en particulier. Et depuis cette époque, nous sommes allés de mesure restrictive en mesure restrictive, et pour des raisons qu'évidemment on n'a pas le temps d'analyser ici, il y a eu une polarisation du discours politique français autour de la question migratoire. Le migrant est devenu la source de tous les maux de la société, je suis très schématique, mais on n'a pas le temps d'approfondir, et parmi les migrants, les réfugiés, parce que là je me permets une petite parenthèse, cessons, s'il vous plaît, de parler de migrants et réfugiés. Parler de migrants et réfugiés, c'est comme si on disait les fruits et la banane, oubliant que la banane est un fruit. Tout réfugié est un migrant. Tout migrant n'est pas un réfugié, mais tout réfugié est un migrant. Donc opposer migrants et réfugiés, c'est du niveau de la stupidité de bas niveau, et comme les personnes qui le font ne sont pas stupides, c'est qu'il y a quelque chose derrière, et il y a donc une volonté idéologique de créer cette confusion. Alors après, que des journalistes reprennent comme des perroquets, c'est une autre histoire, mais de grâce, comme diraient certains, cessons d'opposer migrants et réfugiés. Mais donc, je reviens à mon propos. À partir du milieu des années 80, l'étranger, qu'il soit migrant économique ou qu'il soit migrant pour des raisons de refuge, va devenir le centre de la discussion politique dans le pays. Et là, nous allons vivre cette contradiction dans laquelle la société française est empêtrée depuis plus de 30 ans, c'est-à-dire elle a besoin d'une main-d'œuvre étrangère, mais elle a besoin d'une main-d'œuvre étrangère bon marché. Et donc, il ne faut pas, puisque les luttes syndicales en France ont conduit à ce que un employé, un salarié, qu'il soit français ou étranger, il est traité de la même façon. Donc, pour pouvoir l'exploiter à merci, il faut qu'il ne soit pas en situation régulière pour que la législation du travail ne s'applique pas. Et à ce moment-là, on utilise économiquement cette main-d'œuvre étrangère dont on a besoin, et en même temps, politiquement, on signale à l'étranger comme l'ennemi, comme fond électoral. Je ne vais pas vous retracer l'histoire politique de la France depuis 1983, mais nous savons tous que l'étranger a servi de repoussoir et que, à force de utiliser l'étranger comme répulsoire, la discussion en France s'est centrée autour de la question immigrée, alors qu'elle n'est pas la question fondamentale de la société, on le sait bien. Donc, il y a aujourd'hui un manque de volonté politique, et ça se retrouve dans le discours public, derrière cette phrase qui vient encore d'être prononcée par le nouveau ministre de l'Intérieur, l'appel terre. Si nous faisons ce que nous devons faire, ce sera un appel terre et le monde viendra vivre en France. Prétention française, encore une fois, le monde n'a pas envie de venir vivre en France. Parce que le jour où le monde voudra vraiment vivre en France, ce sont 7 milliards de personnes contre 60 millions. Donc je suis désolé, mais si le monde veut venir en France, il viendra. Et personne ne l'empêchera. Le monde neuf, c'est une prétention de croire que tout le monde veut venir en France. Il suffit de voir quelles sont les nationalités principales qui arrivent aujourd'hui en Europe. Regardez ce qui se passe dans leur pays, la Syrie, l'Irak, l'Afghanistan, le Soudan, l'Érythrée, la République centrafricaine, la République démocratique du Congo, et j'en passe, et il ne se passe rien dans ces pays. Donc c'est de la démagogie que de vouloir dire, si on fait ce qu'on dit devoir faire, parce que ça c'est aussi une caractéristique française, d'avoir un discours qui est bien résumé dans les paroles de la chanson, paroles et paroles et paroles, et la pratique c'est autre chose. Et en plus, je pense que là il y a une différence capitale, vous me corrigerez si je me trompe, par rapport à l'Allemagne, c'est qu'en France, on se contente beaucoup de catégories approximatives, des catégories hors droit, comme les sans-papiers non expulsables, et qui sont des personnes qui vivent dans une situation juridique de non-droit, alors qu'en Allemagne, il me semble que cela n'existe pas. Et que les catégories en Allemagne sont des catégories juridiques et sont respectées jusqu'au bout. Voilà.
On va laisser la parole à Margot Bonis, qui, elle, a une expérience surtout locale. Qu'est-ce qui bloque concrètement dans le parcours de quelqu'un qui peut devenir réfugié et qui ne l'est pas forcément, qui n'est pas reconnu en tant que tel, dans votre expérience à la fois de professionnelle, de militante et des deux à la fois d'ailleurs, qu'est-ce qui fait que finalement on dénie ce droit souvent aux réfugiés de bénéficier de son statut de réfugié?
Alors, ma réaction, bon, déjà je vais peut-être répéter, dire de façon différente, bon, tout à fait. D'accord. Mais ma réaction déjà tout à l'heure aux échanges qu'il y a pu avoir, c'est je me suis beaucoup questionnée sur ce fameux défi que la France doit apporter, doit affronter. Et pour moi, la question se pose en deux temps. Déjà sur le défi de l'accueil, le défi de l'hospitalité éventuellement. Et si de façon structurelle, il nous semble que la France n'est pas en capacité de proposer un dispositif d'accueil cohérent, un dispositif d'accueil construit, de toute façon, le défi est permanent. Et que la situation qui s'est passée en 2015 a été dans un premier temps une situation qui a été très difficile à aborder sur le terrain, puisque nous entendions de ces dispositifs qui se superposent, ces fameuses relocalisations, ces plans migrants qui concernent à la fois le niveau national, la région PACA qui décide en septembre de donner 3 millions d'euros aux associations qui soutiennent les réfugiés, et cet argent n'arrive pas spécialement en ce qui nous concerne. À l'époque, sur la plateforme Asile, on enregistre 60% de hausse d'activité d'arrivée des personnes, et on interpelle les pouvoirs publics. Et les pouvoirs publics nous renvoient une image extrêmement négative de ce qu'on peut, revendiquer, c'est-à-dire revendiquer un dispositif d'accueil qui puisse permettre de répondre à des besoins simples, a priori, dormir quelque part, manger, se vêtir. Mais on se rend compte que la réponse de l'État ne peut pas convenir à la situation réelle, parce que la situation ne veut pas être vue par les agents de l'État. Le sous-préfet, les qualités des chances, me dit un jour en réunion qu'il viendra dans mon service quand j'aurai réglé le problème. Et je lui demande de régler le problème, en fait, parce que c'est sa responsabilité. Et en fait, le gros défi dont on nous parle, le défi de la France d'accueillir, pour moi, c'est révélé en 2015 par une crise européenne, qui est une crise, en fait, qui n'est pas une crise migratoire, mais qui est une crise d'un dispositif d'accueil et une crise des États européens à ne pas vouloir et à ne pas accepter de voir qu'ils sont dans une politique complètement déstructurée et qu'il n'y a pas de substance. Et en France, sur les différentes étapes qui ont pu se succéder en 2015, que ce soit les programmes de relocalisation, que ce soit les plans migrants, que ce soit vider la jungle de Calais, avec une superposition de nouveaux dispositifs d'accueil. On a vu créer des nouveaux dispositifs, des CAO, donc des centres d'accueil d'orientation, qui sont avisés du public calaisien, qui ensuite pourront éventuellement servir aux gens qui sont à Stalingrad, à Paris, qui sont des centres de répit. On voit apparaître des PRADA, c'est-à-dire des lieux d'accueil d'urgence avec assignation à résidence pour les personnes qui sont en attente de CADA. Alors en asile, on parle en France, je ne sais pas en Allemagne, mais avec beaucoup de sigles. Et en fait, on sait que de façon structurelle, il n'y a aucune pensée coordonnée. Et qu'il y a un dispositif national d'accueil qui existe, et que ce dispositif national d'accueil n'est pas pensé pour fonctionner, puisque de toute façon, il n'y a pas le nombre de places qui correspondent aux besoins. Et quand bien même la France est assez lamentable dans sa politique d'accueil, puisqu'elle ne répond pas aux besoins, elle ne répond pas aux besoins qui sont aux portes de l'Europe, puisqu'elle ne joue pas ce jeu-là, eh bien, cet sentiment de crise permanent entretient un débordement des autorités qui, à mon avis, et c'est comme ça que je l'ai ressenti, qui, à mon avis, justifie leur incapacité à répondre à la question.
Marie-Christine, vous avez été, je vous l'ai dit, vous avez été militante, vous avez été aussi membre du Parti Socialiste, avec la partie de gouvernement, même si aujourd'hui vous êtes membre du Front de Gauche, vous avez été membre du cabinet d'un ministre. On a envie de savoir, par rapport à ce que nous a dit Pedro Viana et Margot Bonis, mais qu'est-ce qu'il y a dans la tête des politiques quand ils parlent de cette question de réfugiés? Qu'est-ce qu'ils disent? L'ordre sauvage? Quels sont les représentants? Finalement, on se pose la question. Souvent, on se pose la question, surtout sur des drames comme le conflit. Alors, il faut aussi pas oublier l'Afrique noire, mais ce conflit syrien, on s'écoute très bien aujourd'hui, on aurait presque intérêt, même en termes de politique étrangère, à accueillir les Syriens. Quand on voit la force aujourd'hui de l'Allemagne dans le monde arabe, qui fait une percée en Tunisie, au Maroc, qui sera probablement le pays dominant dans le monde arabe dans quelques années. Mais même en termes... Allez, faisons une politique nationaliste souverainiste. Qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens que vous fréquentez pour que, finalement, on développe cette politique de frilosité et même, on a presque envie de dire, d'incompétence, entre guillemets, hein, je ne mettrai pas tous les politiques dans le même panier, mais vous qui les connaissez, là on aimerait bien presque avoir votre témoignage perso. Qu'est-ce que vous disent vos collègues sur ces questions-là? Est-ce qu'ils en plaisantent? Est-ce qu'ils ont peur? Est-ce qu'ils... Voilà, votre témoignage de politique, côtoyant des politiques, comment ils voient ce problème?
Je suis pas sûre d'être capable de répondre à ce genre de questions. Je peux vous dire ce que j'ai dans la tête, moi. Je peux vous dire pourquoi j'ai quitté le Parti Socialiste, notamment à cause de ces questions-là, parce que militant des droits de l'homme depuis 35 ans, il est arrivé un moment où pour moi c'était devenu insupportable. La politique m'a rattrapée. Je crois que on se fait peur et on fait peur en France. Et moi, ce qui me met en colère. Souvent, je dis souvent maintenant, j'ai plus assez de mots. Je ne sais plus comment exprimer ma colère. Alors, dire je suis européenne, je suis politique, etc. Mais, et encore, je suis au Parlement européen, qui est un des endroits où le débat est plus serein que dans bien d'autres endroits, tout particulièrement en France. Je crois qu'en France, le problème de beaucoup de politiques, et notamment de gens qui se disent encore de gauche, qui osent encore se dire de gauche, c'est la réaction par rapport à la montée de l'extrême droite. Et depuis 33 ans maintenant, puisque grosso modo, aux élections municipales de 1984, le Front National est apparu dans le paysage, on a de plus en plus de responsables politiques, de partis politiques, qui courent après le Front National et qui pensent qu'ils vont lutter contre le Front National en ayant le même discours que le Front National. Moi, je pense qu'il faut faire exactement l'inverse. Et que plus on alimente les peurs, plus on fait monter le Front National. Je veux dire, de façon très simple, les électeurs, au final, ils préfèrent l'original à la copie. Et on l'a encore vu aux dernières élections. On peut se féliciter que Marine Le Pen soit pas arrivée au pouvoir. Mais moi, je ne me félicite pas que Marine Le Pen ait fait 10 millions de... Et eu 10 millions d'électeurs qui aient voté pour elle. Parce que même si elle n'est pas arrivée au pouvoir, le Front National continue de progresser dans notre pays. Et pour moi, cette question-là est une question majeure. Le regard que l'on porte sur l'immigration, le regard que l'on porte sur l'autre est une question majeure. Et c'est une question majeure, notamment dans un pays comme la France, qui n'est pas confronté au problème. Il n'y a pas de problème en France. S'il y a un problème, c'est parce que les gens ne sont pas accueillis. C'est parce que l'État ne donne pas les moyens d'accueillir les gens. Qu'est-ce que c'est Calais ? Calais, les gens, ils ne veulent pas rester en France. Il a fallu que l'OFPRA aille à Calais et supplie un certain nombre de gens de demander l'asile. Ils ne voulaient pas. Moi, j'ai été à Calais. J'ai rencontré, y compris des Syriens, qui m'ont dit « Madame, regardez, pourquoi vous ne voulez pas demander l'asile en France ?» Je dis « Regardez comment votre police nous traite. » Et on n'a pas envie de demander l'asile dans votre pays. Et les chiffres sont là. La France est un des pays où, proportionnellement à sa population, il y a le moins de demandes d'asile. Et en prime, la France est un des 6 pays de l'Union européenne qui refuse le plus le droit d'asile sur son sol. On est autour de 35%. Donc... Il faut qu'on arrête d'avoir un regard ethnocentré. Il faut qu'on se mette dans la réalité des choses. Il n'y a pas de problème migratoire en France. Il y a une histoire migratoire. Il y a une histoire ancienne et qui est une histoire riche. La France est le premier pays européen où le solde migratoire a basculé. On recevait d'ailleurs, y compris des Allemands, à la fin du 19e siècle. Parce que la France était plutôt en avance au point de vue industriel. Ça va durer longtemps, mais... Les Allemands, les Belges, les Italiens principalement, alors que le continent européen a été un continent d'émigration massive. Il faudrait aussi qu'on s'en rappelle, le nombre d'Européens qui sont partis s'installer au Canada, aux États-Unis, dans toute l'Amérique latine, en Australie et dans bien d'autres endroits. Et on est repliés sur nous-mêmes, réfrigérés, alors que on est la zone économique du monde la plus riche du monde. Mais on n'est pas capable d'ouvrir nos portes. Je ne sais plus lequel d'entre vous parlait du Liban. C'est vrai qu'il y a 20% de la population qui est réfugiée dans ce pays. Avec quoi on se fait peur? Et nos gouvernements osent dire, il faut que les pays limitrophes des zones de conflit fassent plus d'efforts. On ose dire ça. On marche sur la tête, quoi. On devrait avoir honte. Nos gouvernements devraient avoir honte d'oser encore dire aujourd'hui qu'ils sont fiers de construire la patrie des droits de l'homme. La France est juste le pays où il y a une des premières déclarations des droits de l'homme qui a été signée. Ça ne veut pas dire que les droits de l'homme sont appliqués. Sinon, je n'aurais pas de raison de continuer à être, parce que bien que députée, je continue à être une militante des droits de l'homme. Les droits de l'homme, c'est des textes qui, les textes, doivent rentrer en application. Et l'autre élément, vous disiez, je vais rebondir, mais en contradiction, enfin en complément de ce que vous dites, arrêtez de séparer réfugiés et migrants, oui, ça n'a pas de sens, mais qu'on arrête aussi de dire les bons réfugiés et les mauvais migrants économiques. Parce que c'est ça la classification. Je suis tombée sur les chiffres, je finis par être obsédée par les chiffres, etc. Je suis tombée sur les chiffres de la réalité des migrations dans l'Union européenne, à partir du premier titre de séjour qui sont accueillis. 2 500 000 personnes ont reçu en 2015, c'est les derniers chiffres qui sont sur la table, 2 500 000 ont reçu un premier titre de séjour. Donc il y a bien des migrations qui arrivent. 2 500 000 migrants réguliers. Mais on n'en parle jamais de cela.
Et on ne risque pas de parler non plus de la première nationalité à qui ces titres de séjour sont accordés. Les Ukrainiens. Sur 2 500 000 titres de séjour accordés dans l'Union européenne, 500 000 Ukrainiens. Et sur ces 500 000 Ukrainiens, 450 000 en Pologne. Avec des titres de travail. C'est pas des migrants économiques, ça? C'est pas de la migration économique acceptée? Et derrière, on a les États-Unis, la Chine, l'Inde. Ils sont où, les migrants du Sud, qui sont en train de nous envahir? Pourquoi il y a des gens qui meurent en Méditerranée? Parce qu'il n'y a pas de voie légale de migration pour ces gens-là. Parce qu'on les empêche de venir sur notre territoire et qu'on ne leur accorde pas de titre de séjour. On mène la bataille au Parlement européen aujourd'hui pour qu'il y ait des visas humanitaires. Ça ne veut pas dire que les gens sont obligés. Juste pour qu'il y ait le droit, un droit européen des visas humanitaires. Le Conseil de l'Union européenne, France en tête, n'en veut pas. Le seul pays qui a accepté, c'est la Grèce. Donc il faut arrêter. Moi, je ne sais pas ce qu'ils ont dans la tête. Mais je me dis que s'ils ne changent pas ce qu'ils ont dans la tête, il ne faudra pas s'étonner qu'on ait encore plus de populisme et plus de nationalisme qui monte. Parce qu'on fait peur. Et le migrant devient le symbole du bouc émissaire de l'échec des autres politiques. Et c'est de la folie douce. C'est exactement le contraire de ce qu'il faut faire.
Alors, avant-dernière question, parce qu'on va laisser quand même la parole à la salle, puisqu'il nous restera une petite demi-heure. Pedro Viana parlait du rapport de force dans la société. Dit finalement, si on prend en compte cette figure du réfugié, du migrant réfugié, c'est aussi parce qu'il y a un rapport de force. Et là, je vais vous interroger à la fois ceux qui connaissent bien l'Allemagne et ceux qui connaissent bien la France. En Allemagne, on a vu, du moins par les médias, des scènes très surprenantes de centaines de personnes sortir avec des pancartes « Willkommen » pour les réfugiés. On a vu des gens dans les jardins publics accueillir les réfugiés, les soutenir. On a envie de comprendre qu'est-ce qui s'est joué là. Est-ce que c'est simplement, comme on dit, la culpabilité par rapport à la Seconde Guerre mondiale? Est-ce que c'est une nouvelle société allemande aussi qui a connu le refuge? Et finalement, est-ce que là, c'est pas aussi la société qui a un peu gagné en Allemagne? Parce qu'on dit, on a beaucoup fait du merkelocentrisme dans la décision de la chancelière d'accueillir les réfugiés, mais il y a quand même une société qui a suivi. Alors, tu l'as très bien dit, Ingrid, il y a du racisme, de la xénophobie, mais il y a aussi une société. Je ne pense pas que ce soit des scènes de fiction. On n'a pas rêvé. On a vu quand même des milliers d'Allemands dans les gares, dans les parcs publics. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire ça? Parce que est-ce qu'on s'est posé aussi la question en France? On ne l'avait même pas fait pour les républicains espagnols, alors que c'était le Front populaire qui gouvernait. C'était, entre guillemets, les républicains espagnols, c'était les camarades des gouvernants. Et on n'a pas vu de scène de liesse pour accueillir les républicains espagnols. On les a plutôt parqués dans des camps, même s'il y a eu quand même de la solidarité. Il y a eu de la solidarité, quand même. Oui, il y a eu aussi de la lâcheté. Et là, en Allemagne, il y a quand même eu cet élan de solidarité. Alors, est-ce que vous pouvez nous l'expliquer, Catherine et Ingrid, quels sont les ressorts de cette société allemande pour qu'il y ait eu cet élan spontané d'accueil?
Bon, c'est vrai qu'au début, il y a eu une mobilisation massive de la population allemande en faveur des réfugiés. Après, il y a des différences, enfin un clivage, je dirais presque également, entre les nouveaux Länder et les anciens États fédérés, parce que, bon, effectivement, les anciens Länder donnent une image beaucoup plus favorable aux réfugiés et en général ou à tous les migrants que ça se fait à l'Allemagne de l'Est. Ingrid l'avait déjà mentionné, on avait une montée assez importante d'un mouvement nationaliste un peu comparable au FN, pas exactement la même chose, mais qui avait essentiellement comme
circonscription l'Allemagne de l'Est, donc c'est là où c'est né, mais l'Allemagne de l'Est est quand même, ce sont les Länder qui ont le taux le moins élevé en fait de population issue de l'immigration, si on ose dire, ça s'élève à entre 2 et 5%, mais quand même, ça naît là, donc un sentiment. Donc je pense qu'effectivement, on ne peut pas complètement séparer ce mouvement de solidarité ou non de solidarité de l'histoire allemande, parce qu'en fait, en Allemagne de l'Est, c'était un peu moins répandu, c'était quand même un état à part pendant plusieurs années, mais je n'irai quand même pas aussi loin de dire que cette vague de solidarité allemande venait toujours d'une certaine culpabilité de la Seconde Guerre mondiale. Je crois que ça, c'est quand même dépassé, on est à la troisième génération après la guerre, donc à un certain moment, il faut quand même peut-être arrêter de parler toujours de culpabilité émanant de la Seconde Guerre mondiale. Ça, c'est juste mon impression personnelle, mais effectivement, il y a eu et sans un engagement assez important de la société civile allemande, l'accueil n'aurait pas été possible. Ça, on a constaté à plusieurs reprises lors de nos visites de terrain qu'on a accomplies pour la mission franco-allemande que moi j'ai gérée pour le gouvernement sarrois. Mais effectivement, il y a eu une certaine évolution des attitudes de la population dans ces deux années également. Au début, c'était un peu l'euphorie, mais après les événements à la nuit de la Saint-Sylvestre 2015-2016 à Cologne, où il y a eu des attaques massives à des femmes près de la gare centrale de Cologne, ça a basculé en quelque sorte. Et aujourd'hui, quand vous regardez un peu les derniers sondages, le bilan est plutôt mitigé. Donc c'est à peu près moitié-moitié, favorable, pas favorable. Et donc loin de là de parler d'une solidarité uniforme et concentrée sur tout le territoire allemand, en fait.
Alors, Ingrid, justement, parce que toi, tu connais bien les deux sociétés, tu as vécu à peu près au même moment dans les deux sociétés. Est-ce que tu as des ressources spécifiques en Allemagne qu'il n'y a pas en France ? Sans dire que la France c'est positif ou l'Allemagne c'est négatif ou vice versa, est-ce que tu vois des élans de la société allemande, des formes de solidarité qu'on ne connaît pas en France ou qui ont disparu, ou est-ce qu'il y a quand même une différence vraiment entre ces deux sociétés par rapport à cette question de réfugiés? Parce que c'est vrai, il faut quand même être franc, on n'a pas vu beaucoup de Français aller dans les gares et les aéroports avec des pancartes.
Il n'y avait
personne. Mais il n'y avait personne, bon, c'est vrai. Mais en même temps, bon, on aurait pu avoir d'autres formes de solidarité.
Donc quand le Front National a tenté d'empêcher les ouvertures de CAO, on a vu de la solidarité citoyenne.
Voilà. Donc justement, on va en parler pour la France. Pour l'Allemagne, comment tu expliques, à la suite de ce qu'a dit Catherine?
Non, mais peut-être. Alors, c'est vrai que c'est un peu mal parti en France, parce que vu que les personnes qui aident les migrants sont poursuivies en justice, etc., c'est vrai que c'est un peu mal parti.
Ce qui n'est pas le cas de l'Allemagne.
Alors ça, pour le moment, maintenant, puisqu'en fait, les gens sont arrivés.
C'est contre des ONG, en
fait. Ça, je ne sais pas. Mais je pense que ça envoie un mauvais signal, hein, déjà. Ça ne donne pas peut-être envie aux citoyens, à tous les citoyens, d'aller aider, venir en aide aux migrants. Ça, c'est vraiment problématique, je crois, en France. Mais bon, quand on regarde l'ampleur de ce mouvement citoyen qu'il y a eu, c'est vrai que c'était quand même assez impressionnant. Enfin, là, les images qu'on a vues à la télé, etc., c'était assez émouvant de voir ça. Mais quelque part, cet engagement, en fait, se fait aussi... comment dire? Les motivations de cet engagement sont aider les gens, mais c'est aussi, c'est ce que montre une enquête d'ailleurs en Allemagne, hein, c'est avoir un sentiment de communauté, d'appartenir à une communauté. Donc ça montre bien que même cet engagement, en fait, il faut l'inscrire, pour le comprendre, il faut l'inscrire dans l'histoire, en fait, de sentiment de communauté nationale qui, en Allemagne, n'est peut-être pas autorisé, peut-être, comme en France, qui est peut-être plus naturel, on dirait, ou je ne sais pas comment dire. Mais, et du coup, voilà, ce sentiment partagé, ce moment de solidarité, fait qu'on va appartenir à une communauté nationale qui va être valorisée, du coup, hein, parce que c'est quand même un acte valorisant d'aider l'autre. Mais qui, du même coup, a des effets aussi un peu pervers, hein, puisque celui qui qui est aidé, bon, bah forcément, il n'est pas au même niveau que celui qui aide, dans la hiérarchie, on va dire. Hein. Donc, et ça, c'est quelque chose quand même aussi, ce qu'on voit en Allemagne, et je trouve que c'est assez important, c'est qu'il y a des organisations qui, justement, traitent de, ce, de cette problématique, d'être aidant et aider, voilà. Et qu'est-ce que ça veut dire? Et sensibiliser au fait qu'il faut toujours être en perpétuelle auto-évaluation de son action envers l'autre, que l'autre, ce n'est pas simplement la personne que j'aide et qui a besoin de moi, mais que c'est un individu, un sujet politique avec des droits, avec des... voilà, comme moi, en fait. Et donc ça, c'est tout un accompagnement aussi des organisations qui est nécessaire pour éviter de reproduire donc des démarcations des hiérarchies en fait entre différents groupes. Alors je ne sais pas si ça répond exactement à ta question.
Si. On va. Voilà. Ce que vous avez l'air de dire, Ingrid, c'est que finalement en Allemagne, l'autre migrant ou l'autre réfugié est vu comme différent. Et donc, du coup, on peut l'aider, alors qu'en France, on aurait tendance à tout vouloir manger, donc de ne pas le prendre, par peur qu'on ne peut pas l'absorber. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est-à-dire que les Allemands raisonnent plus en termes d'étrangers, ce qui fait qu'ils n'ont pas de mal à aider l'autre, alors qu'en France, on se dit, l'autre, il faut qu'il devienne un même, et comme il ne pourra pas le devenir, on ne le prend pas. Est-ce qu'il n'y a pas un peu cette tendance française à ne pas accepter, finalement, les réfugiés, parce qu'on dit, on ne pourra rien en faire, tout simplement?
Non. Bon, moi, je pense qu'il y a quand même une chose, peut-être, que je n'ai pas dit.
Ce que j'appellerais un complexe très assimilationniste français, de toujours vouloir aider l'autre en espérant qu'il vous ressemblera un jour. Alors que l'Allemagne le considérera toujours comme étranger, tout en le respectant, mais comme étranger.
Non, parce que mais en fait, ça dépend comment. Enfin, là, il faudrait vraiment parler pendant des heures là-dessus. C'est très compliqué parce qu'en Allemagne, ça a changé beaucoup. Il y a beaucoup de choses qui ont changé par rapport à l'étranger. Hein, puisque
Il y a des Turcs parlementaires. Des Allemands d'origine turque parlementaire aujourd'hui en nombre
ils sont sous-représentés, il faut bien le dire, ils sont sous-représentés dans les catégories supérieures sociales supérieures, donc il y a toujours cette problématique là, mais il y a en Allemagne je dirais quand même un changement par rapport au fait que de plus en plus pour devenir allemand, il faut avoir un certain comportement culturel. Ça, c'est une enquête statistique quantitative, hein, où on a bien montré qu'entre 1996 et 2006, en 2000, il y a eu un changement de loi sur la nationalité en Allemagne. Et ce qui est important, selon les personnes allemandes, pour devenir allemand, ce n'est plus d'être d'ascendance allemande, mais c'est d'avoir un certain comportement culturel, d'être irréprochable, de savoir bien parler l'allemand, et alors bientôt il faudra savoir parler l'allemand sans accent, parce qu'on peut pousser ça au paroxysme et on peut aller très loin là-dedans, mais du coup il y a vraiment ce changement quand même, mais du coup je ne dirais pas que c'est pas comme en France, parce qu'il y a cette attente d'assimilation culturelle, et ça c'est quelque chose qui est commun à beaucoup de pays européens, qui ont une perspective très culturaliste de leur politique d'intégration, et ça n'échappe pas à l'Allemagne, ça n'échappe pas à la France, avec vraiment le socle de l'intégration en Allemagne, ce sont les cours d'intégration. Il y a quand même 600 heures de cours d'allemand. Pendant 10 mois, 4 jours par semaine, 4 matinées par semaine, des cours d'allemand. En France, c'est pas du tout la même chose. Hein. C'est 100 heures ou je sais plus, enfin, 200. Enfin, c'est la moitié. Ouais. Donc, je pense que cette tendance, elle est similaire. Mais...
Catherine veut rajouter quelque chose. Oui.
Juste quand il s'agit des cours de langue, en fait, effectivement, la langue est un des piliers d'intégration, mais pas que. Donc, il faudra toujours que s'ajoute autre chose. Donc peut-être pour revenir un peu à cette vision culturaliste, effectivement. Donc il s'agit de respecter quand même les valeurs de la société allemande. Bon, ensuite, on peut s'interroger à quoi ça ressemble, ces valeurs. Effectivement, c'est toujours un peu personnel d'y juger. Mais il y a donc un code un peu général, enfin des valeurs un peu générales à accepter, et donc ça passe pas uniquement par la langue, qui est la première chose. Et c'est vrai qu'en Allemagne on a vu assez souvent qu'en France ça se passait toujours très très bien, vos immigrants ils savaient presque tous déjà parler la langue, donc en Allemagne on s'était dit ah bah oui, la France le modèle en tant que intégration, parce que la connaissance de langue est déjà là. Mais on a considéré que
notamment. Et là, je reviens aussi à... Voilà, ça venait du fait que votre intégration à vous, votre migration à vous, ça venait des colonies, effectivement. Donc, vous aviez déjà les connaissances de langue. Mais effectivement, on avait découvert ça aussi pendant notre mission franco-allemande. Donc, la langue ne peut être qu'un premier pas. C'est pourquoi il faut faciliter l'accès à des cours linguistiques, des cours de langue. Mais après, il faut que s'ajoute autre chose, un certain sentiment d'appartenance à une société, une culture. Et ça, ça ne se fait pas uniquement par la langue. Donc, c'est un premier pas, mais il faudra un petit plus qui aille avec, en fait, pour vraiment aboutir à une intégration. Et même le mot intégration, un dernier point que j'ajouterais, ça peut poser problème en France. Par exemple, pendant la rédaction de notre rapport, normalement, la France ne voulait pas mettre le mot intégration sur le titre. Donc, plutôt parler du vivre ensemble, voilà, combattre les discriminations, ça c'est souvent voilà, l'angle d'attaque français. Mais voilà, en Allemagne, on a vraiment voilà, un peu imposé ce terme d'intégration. C'est vrai que ça ne correspond pas à la notion de la nation que se fait la France, où il n'y a pas besoin d'intégration, puisque tout le monde qui a un statut clair voilà, fait automatiquement partie de la société française. Donc, mais ça a été une erreur, hein, selon nous, de penser ça. Et donc, il faut y ajouter peut-être autre chose. Et voilà pourquoi c'était...
Pedro, bah, oui, et puis après, on va peut-être passer la...
Trois remarques très rapides. La première, c'est presque un aspect, c'est presque un aspect technique, mais l'Allemagne, depuis qu'elle a commencé à accueillir des réfugiés dans la période, disons, contemporaine, il y avait une logique du système d'accueil où le réfugié, ce qu'on appelle aujourd'hui demandeur d'asile, allait obligatoirement dans un centre. Donc le fait d'accueillir impliquait une obligation absolue d'avoir des places pour les accueillir. Tandis qu'en France, il y avait une autre optique qui, dans les années 70, se justifiait, qui était le choix qui était laissé aux réfugiés d'aller dans un centre qui lui était proposé ou de partir en ce qu'on appelait la solution individuelle. Et donc, il n'y avait pas l'obligation d'aller en centre. Et à partir de là, quand les restrictions ont commencé et que ce sont des restrictions qui sont passées par des difficultés de procédure, par manque de place dans les centres, etc., ce n'était pas une aberration que de ne pas envoyer quelqu'un dans un centre, alors qu'en Allemagne, ça aurait été une aberration. Ma deuxième remarque, qui pourrait être polémique, je ne la fais pas sous forme d'affirmation, parce que pour moi, c'est une interrogation, mais à propos des mobilisations dans les deux sociétés, c'est le rôle de la religion. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, parmi les forces organisées qui sont celles qui sont plus solidaires avec les migrants et qui sont solidaires a fortiori avec les migrants réfugiés, il y a les églises. Et on connaît le relatif peu de poids des églises en France. Donc pour moi, c'est une interrogation. Quel est le rôle que cela peut jouer? Le fait que le mouvement Welcome, par exemple, ait été lancé par les jésuites, le service jésuite des réfugiés. Donc, la pénétration du christianisme en France étant peut-être plus faible, c'est une interrogation. Et ma dernière remarque, ce n'est pas une boutade. Vincent, je sais, a dit beaucoup de choses sur ma vie personnelle, et il a omis ce qui a été mon premier métier. J'ai été professeur de mathématiques. Et en mathématiques, on définit l'ensemble vide comme l'ensemble dont la norme de définition contient une contradiction logique. Ce qui fait qu'il n'y a pas d'élément qui puisse remplir cet ensemble, puisque la définition même implique une contradiction. Et j'applique donc ça à la pensée, à la tête des hommes et des femmes politiques qui nous gouvernent, et non pas parce qu'ils sont imbéciles, mais parce que la norme de définition implique une contradiction logique. On doit se tenir à un discours qui est un discours de droit de l'homme, qui est un discours humaniste, et une pratique qui va dans le sens contraire. Donc il y a une contradiction et l'ensemble est vide. La tête est vide.
Je peux apporter un petit témoignage qui m'a... C'est vrai que pour avoir vécu au Liban pendant 4 ans, on a un discours anti-réfugiés horrible. Les Syriens n'en veulent pas, qu'on les mette à la mer, etc. Et vous avez une société qui ne cesse d'accueillir les réfugiés. C'est-à-dire que je vous donne des exemples. Vous avez un prêtre, un imam, vous les rencontrez le matin vers 9h. J'en ai ras-le-bol des réfugiés, ils salissent les mosquées, ils salissent les églises, etc. Vous repassez l'après-midi, le prêtre et l'imam sont en train de faire des sacs de riz pour aider les réfugiés ou de faire des collectes pour les... On est là dans un vrai problème qui concerne nos sociétés démocratiques, entre guillemets, occidentales. Parce que c'est l'abus du discours des droits de l'homme pour faire le contraire, face à des sociétés où le discours des droits de l'homme est beaucoup moins structurant de l'espace public, mais où, en revanche, l'expérience d'avoir été réfugié de la guerre fait que... Et c'est quand tu disais... Et je relis ça aussi à la question, non pas religieuse, mais la question associative et communautaire. Quand vous avez des sociétés où vous comptez beaucoup sur les églises, les mosquées, les associations communautaires, pas au sens religieux, mais comme structurant de l'univers, ça fait que ça fait de la solidarité. Un Libanais, alors je vais le dire, un Libanais raciste, qui va passer tous les jours son temps à dire « je ne veux pas de Syriens, c'est des sous-hommes, etc. », le même Libanais peut ouvrir sa maison à des réfugiés. Vous voyez ? Donc là, ce que tu dis, à mon avis, se vérifie et pose une question. Qu'est-ce qu'est aujourd'hui un pays démocratique et des droits de l'homme lorsqu'on fait souvent le contraire ? Et est-ce que le discours n'est pas un frein à l'action ? Enfin, on est tellement bercé, on est tellement heureux d'être le pays des droits de l'homme que finalement, on ne fait plus rien. Et ça, je pense que c'est une vraie question, pas seulement philosophique, mais finalement, les démocraties de mots, M-O-T-S, finissent par produire des mots M-A-U-X. Et là, j'en reste persuadé de mon expérience libanaise. Parce qu'on peut juger le Liban comme un pays raciste, mais un pays raciste qui accueille aujourd'hui 1,5 million de réfugiés, moi je ne lui donnerai pas de leçons en tout cas. Voilà.
Oui, j'ai un peu perdu le fil du coup. En fait, je voulais réagir sur les questions initiales qui étaient concernant le mouvement social et
oui,
potentiellement
la
société civile. Et il me semble, alors je ne suis pas du tout spécialiste de l'Allemagne, j'y connais presque, je dirais rien en fait. Mais il me semble quand même qu'en France, on a une sacrée particularité qui est d'avoir quand même fondé notre action sociale sur un gros tissu associatif. Et d'avoir...
C'est pareil.
Voilà, en tout cas, moi, ce que je connais de la France. Et d'avoir fondé ça sur un tissu associatif qui prend en charge une grande partie des responsabilités de l'État. Et sur le secteur de l'asile, on rencontre des transformations et des glissements très 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 forts ces dernières années et qui sont extrêmement dangereux, effectivement. Pour la première fois, en 2016, les plateformes d'accueil passent sous marché public. Et c'est un vrai questionnement en ce qui concerne l'organisation du premier accueil des demandeurs d'asile. C'est un gros problème. Et ces marchés publics qui apparaissent dans le secteur social, à ma connaissance, les plateformes, c'est le premier qui concerne directement le secteur social. Il y avait les centres de rétention en 2010. Et après, les Prada qui apparaissent. Mais sur la forme concrète du marché public, on est sur des appels d'offres, on est sur... Et ça a un vrai sens, parce qu'on est dans une logique de concurrence associative, une logique d'opposition. Et les associations qui devraient, dans l'idéal, dans un monde un peu joli, travailler ensemble...
Et qui l'ont fait.
Et qui l'ont fait pendant longtemps, se mobiliser pour une cause, en l'occurrence éventuellement la cause des réfugiés, se retrouvent quand même de plus en plus mis en concurrence. Et on rencontre la société civile, je ne saurais pas le définir exactement, mais il me semble qu'on a des strates et que les associations... qui pouvaient, à un moment donné, on parlait de votre expérience à France d'Asile, en souriant, il y a très longtemps, mais qui pouvaient se revendiquer de faire du plaidoyer, de faire du lobbying, de défendre un droit, deviennent aujourd'hui quand même des outils pour mettre en place et organiser la politique d'accueil en France. Et... en parallèle, on voit quand même des mouvements de société civile plus de type collectif,
des réseaux qui se créent, des réseaux qui émergent. Mais je pense que cette place très très forte actuellement, c'est comme ça que je l'analyse, du tissu associatif, dans la délégation, de l'organisation, de l'État, de l'accueil des réfugiés et des demandeurs d'asile et des migrants, enfin peu importe, c'est important. Je pense que ça participe aussi peut-être de l'absence d'une sorte de mobilisation de la société civile. Comme si le problème était déjà pris en charge par la société civile, alors que ce n'est pas la société civile qui est le pris en charge.
On va peut-être poser une dernière question et on va très vite aller au débat. Peut-être tout le monde n'est pas obligé de répondre à cette question, avant la dernière question à laquelle vous devrez tous répondre. Est-ce que la question du terrorisme a aujourd'hui modifié l'attitude, le comportement et les politiques d'accueil des réfugiés ? Est-ce que cette question, est-ce qu'il y a un amalgame qui est fait ? Est-ce que c'est simplement un prétexte des pouvoirs publics pour encore plus freiner l'accueil des réfugiés ? Ou est-ce qu'il y a une vraie inquiétude ? Après tout, même s'il faut une politique qui peut être très dure, on peut penser qu'elle peut être... Est-ce que le climat d'insécurité engendré par les attentats, pour être tout à fait clair dans ma question, est-ce que vous avez pu observer, de vos points de vue politiques, vous, aux fonctionnaires, Margot associative, Pedro à la fois associatif et ancien juge, est-ce que cette question du terrorisme est simplement un prétexte pour ne plus accueillir, ou est-ce que c'est une inquiétude réelle que de voir des terroristes rentrer sur notre territoire ? Vous comprenez le sens de ma question ? La politique, il y a peut-être une...
Bien sûr que cette question est instrumentalisée.
Instrumentalisée,
alors. Bien sûr, instrumentalisée. Pourquoi ? D'abord parce que la France est le seul pays de l'Union européenne qui, après des attentats, et n'est pas la seule à avoir suivi des attentats qui a créé l'état d'urgence, qui porte atteinte aux libertés fondamentales et aux droits fondamentaux, mais ça n'empêche pas que, globalement, dans l'ensemble des pays de l'Union européenne, on fait cet amalgame. Et pourquoi on fait pourquoi c'est une instrumentalisation ? Parce que si on regarde qui sont les auteurs des attentats, la majorité d'entre eux sont des citoyens européens. L'immense majorité.
Installée.
Donc, c'est utilisé, instrumentalisé, effectivement, par rapport à, au refus d'accepter certains migrants. Je réinsiste sur les 12 500 000 migrants. Parce que je pense que c'est important qu'on casse cette image-là. Que c'est certains migrants ne vont pas mourir. Et il y a la question qui est liée à la question que j'appellerais identitaire pour faire court, et qu'on retrouve dans nombre de l'Union européenne. C'est pour ça que je parlais des Ukrainiens tout à l'heure. Si on accepte les Ukrainiens, c'est parce que les Ukrainiens, ils sont chrétiens. Et on voit en Pologne accueillir les Ukrainiens et refuser de plus en plus les Tchétchènes. Les Tchétchènes, ils sont musulmans. Donc on a cette question identitaire. Et cette question identitaire qui frappe l'Union européenne, qui frappe l'Union européenne, le continent européen, parce que le continent européen est un continent en crise. C'est un continent en crise, notamment sur sa partie ouest, parce que c'est une partie du continent qui a dominé le monde. Qui a dominé le monde pendant plusieurs siècles et qui perd cette domination. Ils peuvent chercher tous les instruments politiques, économiques, etc. La planète a 7 milliards d'habitants aujourd'hui. Il y a 500 millions d'Européens. Et pourquoi l'Afrique fait peur ? Parce que l'Afrique est le continent où le taux de natalité et d'augmentation démographique est la plus forte. Moi, je l'entends en permanence dans les discours. Ces Africains qui vont arriver à cause de la croissance et qui regardent un petit peu ce qui se passe sur ce continent. Les problèmes, ils sont sur ce continent. Les problèmes des réfugiés, ils sont d'abord sur ce continent. Et au lieu d'aider ce continent, on fait exactement le contraire.